affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Notre émission de ce jour représente un défi car elle sera consacrée au peintre et académicien Georges Ronner à l'occasion de l'exposition qui lui sera consacrée du 27 mars au 13 avril prochain à l'Institut de France. C'est un double défi car il n'est bien sûr par essence pas évident d'évoquer un art visuel à la radio. D'autres médias pourraient sembler plus adaptés. Et c'est encore plus délicat s'agissant de Georges Ronner parce que figurez-vous que ce peintre se caractérisait également par sa réticence extrême à parler de lui et de son œuvre. Fort heureusement, nous sommes en mesure de relever ce défi grâce à la présence en nos studios de Michel Salmon. Michel Salmon, bonjour, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Vous êtes vous-même artiste peintre, vous êtes correspondante de l'Académie des Beaux-Arts, et j'allais dire surtout, vous avez fort bien connu Georges Ronner, puisque vous avez été son élève. Et de surcroît, aujourd'hui, vous êtes à l'origine de l'exposition qui lui est consacrée à l'Institut de France. Pour commencer, à nous, qui connaissons peu l'œuvre de Georges Ronner, même si nous avons certainement dans les yeux certaines de ses toiles sans parfois pouvoir lui attribuer, pourriez-vous nous le présenter en quelques mots, nous le situer ?
Eh bien, c'est un peintre pour ma part, que je trouve intemporel, parce qu'il a beau être figuratif, maintenant, quand on regarde aujourd'hui, il y a une correspondance assez grande avec notre époque dans sa manière de s'exprimer, dans la simplicité de ses sujets et une simplicité ambiguë en fait, parce qu'il y a toujours un deuxième regard qu'on peut donner dessus. Mais c'était un sujet, pouvoir présenter une exposition sur Georges Ronner à son hommage, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et l'Académie a donné cette chance de pouvoir le faire connaître au grand public. Il a toujours une vie, il a toujours vécu de sa peinture, il était assez connu. Maintenant, il est un peu peut-être oublié du grand public, puisque ça n'est plus à la mode, si on peut dire. Mais c'est peut-être une occasion également de le faire justement redécouvrir et que les gens s'aperçoivent à quel point il est contemporain aussi.
Oui, lorsque l'on lit ce que les critiques disent de lui aujourd'hui, puis même de son vivant, on le qualifiait de peintre réaliste, figuratif, classique.
Oui.
Ce sont des qualificatifs qui lui correspondaient, qui lui convenaient.
Vous savez, je pense que ça lui importait un petit peu la vie qu'on avait sur sa peinture. Lui, c'était un homme qui suivait son chemin. Comme il le disait, j'ai creusé mon propre sillon correspondant à mon tempérament, à mon caractère, en laissant de côté ce qui était tentant mais ne me correspondait pas. Donc, effectivement, ça... C'est les adjectifs que vous utilisez, quelque part, correspondent, mais en même temps, ils sont réducteurs, je trouve.
Lesquels faudra-t-il ajouter ?
Ah, mais c'est-à-dire que pas seulement classique, c'est-à-dire que aussi une forme d'ésotérisme, une sensualité, une sensualité pudique. Pas du premier niveau, si vous voulez. Et puis, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de parler de la peinture. La peinture, ça se regarde, ça se sent. On voit la patte, aussi. Et ça, c'est quelque chose que les mots ne peuvent pas... Ce contact-là, les mots ne peuvent pas le remplacer.
Parmi les qualificatifs, il y a aussi, certains voyaient dans son œuvre une tentation de flirter presque avec le surréalisme, notamment par ses compositions.
Oui, mais avec un en gardant un côté comme enfin très construit, l'harmonie, la construction, une architecture, la sobriété, la simplification. Et en même temps, je vous dis, la sensualité, on la trouve plutôt dans la pâte et puis dans des sujets qui sont juste suggérés, effleurés, à chacun ensuite de trouver ses clés pour regarder.
Oui, on a le sentiment, y compris d'ailleurs de façon extrêmement figurative, que c'est un peintre qui invite à ouvrir des portes et à trouver sa propre voie.
Oui.
Vous me disiez d'ailleurs, lors de la préparation de cette émission, que c'est ainsi qu'il procédait avec ses élèves.
Tout à fait. Disons qu'il aidait ses élèves vraiment à se découvrir, à chercher, à aller puiser justement chez les anciens aussi, mais en eux-mêmes. Pas seulement chez les peintres, mais également chez les philosophes, chez les musiciens, à les puiser pour trouver leur propre moyen d'expression, leur propre sillon, comme lui avait creusé le sien. C'est en cela qu'il avait un enseignement non doctrinal.
Et pourtant, au début de sa vie, dans les années 30, il a fait partie de manière... éphémère d'un mouvement qui s'appelait Force Nouvelle.
Tout à fait.
Et qui posait un certain nombre de principes artistiques.
Avec ses amis des Beaux-Arts, oui. C'était une époque où, justement, ils avaient décidé de former un groupe pour défendre les valeurs traditionnelles de l'art en réaction. En réaction avec tout le mouvement à la fois abstrait, expressionniste, etc., qui arrivait. Mais il a continué à suivre cette voie, d'ailleurs, de la tradition. Mais comme c'était quelqu'un de très indépendant, il ne s'est pas impliqué ensuite le reste de sa vie dans des mouvements de groupe.
Il ne voulait pas faire école.
Non, il ne voulait pas faire école. Comme, un peu comme après avec ses élèves, il ne voulait pas faire école non plus. C'est-à-dire que, et plutôt les aider à se découvrir plutôt qu'à suivre son exemple.
On pourrait presque étendre même cette attitude à l'égard de ceux qui observent ses œuvres. Ce refus de parler de ses œuvres, de donner un appareil critique ou presque marketing, comme ça peut se faire aujourd'hui, où l'auteur de l'œuvre y associe
un discours.
Parfois un discours qui prend presque parfois plus de place que l'œuvre elle-même.
Mais ça n'entrait pas du tout dans son concept, ça, ce procédé vendeur, justement, de l'œuvre. Pour lui, on crée en solitaire, ensuite on propose, et puis c'est celui qui regarde, qui s'arrête ou qui ne s'arrête pas. Et s'il s'arrête, c'est lui qui construit son propre échange, sa propre lecture de l'œuvre. Et chacun le fait en fonction de son histoire personnelle, de son ressenti. Et je pense qu'en cela, c'est plus varié, plus riche.
C'est un homme d'une grande humilité aussi, non ?
Très, oui, tout à fait. Oui.
Lorsqu'il se réfère au classique, ce n'est pas pour s'en prévaloir.
Pas du tout, non. Non, au contraire.
C'est plutôt pour reconnaître un tribut.
Tout à fait. D'ailleurs, il a un petit peu évoqué, dans sa grande toile, le musée imaginaire, qui, si je ne m'abuse, a été, je ne sais plus si c'est à Beaubourg, mais elle a été acquise par un grand musée. Et dans ce musée imaginaire, on a cette profondeur, on passe dans une construction de salle déserte, au niveau des êtres, mais rempli d'étoiles qui l'ont nourri dans sa jeunesse et au long de sa vie, qui l'ont inspiré. Philippe de Champaigne, Ingres, David, Chardin et Mondrian, qu'on retrouve aussi dans certaines de ses toiles, avec ses constructions architecturales et ses grands aplats de couleurs strictes.
Les peintres que vous avez cités, ce sont ses maîtres ?
Ses maîtres, c'est pas moi qui vais parler à sa place, hein, mais ce sont ceux qui l'ont nourri, qui l'ont inspiré, qui ont conduit, qui l'ont aidé dans sa recherche, dans son chemin, oui, tout à fait. Philippe de Champaigne aussi, il nous parlait également de Paolo Uccello, Piero della Francesca.
La Renaissance jusqu'au 19e français.
Tout à fait, oui.
Lorsqu'on observe ses œuvres, on se rend compte qu'on est à la fois, comme vous l'avez dit, dans la sensualité, bien que certains prétendent que ce soit un peintre froid, ce qui m'étonne. Mais on sent aussi, il est vrai, qu'il est cérébral.
Ça peut paraître froid, surtout dans les reproductions des livres, mais quand on est en face de l'œuvre, je pense que déjà, la manière de travailler la pâte, que lorsqu'on le regarde, ça n'est déjà plus froid. Enfin, c'est peut-être le peintre qui est en moi qui le ressent de cette façon. Mais cérébral, mais évidemment, puisque je vous dis, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui préparait beaucoup ses tableaux. Il faisait des brouillons, il faisait ensuite des esquisses plus élaborées, et petit à petit, il montait sa mayonnaise un petit peu. Et quand il sentait vraiment son sujet, à ce moment-là, ça devenait une toile.
Il passait à la réalisation.
Oui.
Dans l'exposé des maîtres qui l'ont inspiré, aller d'Ingres à Mondrian, ce n'est pas banal. Ça montre bien que le personnage est plus complexe qu'on veut bien le dire.
Mais il est certainement beaucoup plus complexe, et c'est en cela qu'il était intéressant. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'y avait pas de limite entre l'abstraction et la figuration. C'est un tout. Chacun choisit son mode d'expression, mais il l'a dit tellement bien lui-même. Dans un DVD qui est en même temps son testament, que je voudrais pas trahir sa pensée, sa phrase, mais je pense que vous l'avez.
Oui, je vous propose qu'on en écoute un court extrait. Oui. C'est donc un DVD consacré à Georges Renner, réalisé par Claude Guibert dans le cadre de l'Encyclopédie de l'art contemporain. Bien entendu, en fin d'émission, nous expliquerons aux auditeurs où ils peuvent se le procurer. Mais voici un extrait où, effectivement, Georges Renner explique la façon dont il conçoit son œuvre, ses œuvres, la façon dont il appréhende son art et son refus de l'opposition qu'il jugeait factice ou stérile entre art figuratif et art abstrait. Je propose d'écouter donc cet extrait.
Que pour moi, la peinture, le fond de la peinture est essentiellement abstraite. Dans son développement. Je ne dis pas dans sa conception, dans son développement. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un tableau ? C'est l'équilibre, l'harmonie qu'il y a entre les formes, les couleurs et qui crée la lumière. Bon. Que les formes soient abstraites ou représentatives, ça n'y a pas d'incidence. Le tableau est beau quand il est équilibré. S'il était équilibré par la couleur, par les formes, etc., donc est abstrait, purement abstrait, il y a des réussites qui sont magnifiques. Et si en plus vous avez dans ces formes qui sont inventées l'intégration de formes issues de la nature, ça devient l'art figuratif, mais finalement il est le même. Alors pour moi, je dois dire tout de suite, je dois préciser que la conception du tableau est purement abstraite, c'est-à-dire qu'il y a son équilibre dans son fond, dans toute son essence, mais que pour moi, qui suis avant tout un passionné de la peinture, un amoureux de la peinture dans sa grande tradition, si les éléments choisis, les formes, par les couleurs, etc., ne sont pas justifiés, ne sont pas complétés par des formes issues de la nature, je n'ai pas de plaisir à les peindre. Ouais. Je n'ai pas de plaisir vraiment à peindre une forme abstraite. J'ai besoin de l'intégration de la nature dans ses formes pour que la peinture elle-même prenne sa vie et prenne son essence pour moi, prenne son intensité.
Que nous apprend finalement fondamentalement cet extrait sur la conception que se faisait Georges Renner de son art ?
Bien justement, que la conception de l'œuvre est essentiellement abstraite à la base et qu'ensuite, chacun trouve son moyen d'expression. Certains continuent dans l'expression abstraite ou expressionniste ou enfin des formules complètement différentes. Lui avait besoin de se raccrocher à quelque chose de figuratif. Il le fait en utilisant des corps humains, des fruits, des tissus, des bouteilles, etc., pour nous amener à une réflexion en même temps et, comment pourrais-je dire...
S'adresser au sens.
S'adresser au sens, oui, effectivement, à travers ces éléments, parce que ces éléments sont purement concrets, eux. Ça n'empêche en rien, justement, cette conception abstraite de l'origine,
d'ailleurs,
l'idée.
Il dit à un moment, il utilise le mot de plaisir pour justifier son attachement à un art plus figuratif, à la nécessité d'utiliser les éléments issus de la nature.
Oui.
Il dit, parce que sinon, je n'éprouve pas de plaisir.
Ben, on le retrouve très bien d'ailleurs dans les sujets qu'il a choisis, ces thèmes récurrents, le nu féminin, les drapés, les tables avec les nappes blanches, les serviettes, les bouteilles. Elle met toujours les choses, même dans le désordre, très bien organisé.
Très composé.
Exactement. Les instruments de musique aussi. Alors toujours architecturés de façon harmonieuse. Les fruits et les légumes. Et là, c'est savoureux à la fois dans la manière dont il utilise les éléments. Mais c'est savoureux aussi dans la couleur. Dans la pâte utilisée. Et on trouve justement dans certaines de ces toiles, on peut comparer, il y a une toile qui représente, une petite toile qui représente une orange coupée, posée, chaque moitié posée sur une assiette, et puis en dessous, une cerise. Et on peut faire le parallèle entre cette petite toile et puis un torse féminin où on voit justement le nombril qui pourrait être la cerise et puis les deux pointes de sein qu'on retrouve dans les oranges aussi. C'est ça son expression de la sensualité quelque part.
Oui, il y a beaucoup de jeux de correspondance, vous voulez dire.
Suggestions.
Des suggestions et même des toiles qui semblent se répondre, une cohérence de l'œuvre dans sa globalité.
Absolument, oui.
Non, parmi ces œuvres, ce qui est frappant aussi, c'est le recours très spécifique à la couleur. La façon dont il joue sur les contrastes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Alors, dans la couleur, il utilise... si vous voulez, dans les veloutés, les dégradés, ce sont plutôt des couleurs des couleurs neutres, dans les gris, les ocrés, qui servent par exemple dans des fonds, les corps, et puis en contraste, lorsqu'il utilise la couleur, c'est dans cette harmonie ou grise ou ocrée. Un point très net, très franc, d'une couleur assez pure. le rouge, le bleu, le noir, des jaunes. Mais on retrouve souvent le rouge, la pointe de rouge. Cette pointe de rouge qu'on retrouve d'ailleurs si on suit le chemin de son musée imaginaire, qui va depuis le petit dessin, le portrait plutôt de Bonaparte à l'entrée de son musée imaginaire et qui nous emmène petit à petit jusqu'au sacre de Napoléon. Et toutes les toiles le long de ce chemin sont ponctuées par ce rouge à un endroit donné. Moi, j'appelle ça le rouge Renner.
Le rouge Renner.
C'est un rouge cadmium franc. Rouge cadmium clair ou foncé, mais c'est un beau rouge. D'ailleurs, il nous incitait à utiliser des couleurs naturelles. Le bleu de cobalt, le rouge de cadmium, le jaune de cadmium, et puis autrement, évidemment, les ocres, les terres. Parce que ce sont des couleurs aussi qui vieillissent bien dans le temps. Ce sont des couleurs classiques, issues de la terre et qui ne sont pas sensibles aux modes et puis au vieillissement.
Ni au vieillissement physique, ni à la lassitude
peut-être
des regards.
Aussi, peut-être aussi. On se lasse de certaines couleurs qu'on dit modernes et qui ensuite passent de mode complètement. Alors que là, on reste effectivement dans les couleurs de la vie quotidienne, en fait. Quand on regarde les paysages, ces paysages aussi, il a beaucoup peint des paysages de Bretagne, des paysages du Midi... des paysages de Bourgogne aussi, et puis les architectures des villes. Alors là, c'était une passion, ça faisait partie justement de cette rigueur, de cette construction, de son amour pour l'architecture. Rome, évidemment, ça, c'est logique. Paris, beaucoup. On retrouve d'ailleurs dans l'exposition quelques-unes de ces toiles-là.
Et pour les gens qui viendront à l'exposition, on peut signaler que parmi ces sujets et ces rues préférées de Paris, il y en a beaucoup qui se trouvent autour de l'Institut.
Tout
et qui
à fait.
Possible ensuite de s'y rendre pour.
Et oui, parce que comme il s'est installé très 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 tôt dans les années 40, rue des Beaux-Arts. Non, rue Bonaparte, c'était à l'angle de la rue des Beaux-Arts, en fait, de la rue Bonaparte, son atelier. Mais c'était rue Bonaparte en face de son école des Beaux-Arts. Et là, il a beaucoup utilisé les sujets autour, effectivement.
Notamment la cour de l'école des Beaux-Arts.
La cour de l'école des Beaux-Arts, la rue de l'Échaudée, sous la neige, qui est montrée à l'exposition, d'ailleurs. La rue Mazarine, l'Institut... sous plusieurs faces, vue du Pont des Arts, vue de côté, etc. Les Tuileries, le jardin des Tuileries, Notre-Dame, les quais, enfin, en général. Et puis les Invalides. Il était passionné par les Invalides.
Je crois qu'il y a une de ces toiles qui...
Et il a plusieurs toiles. D'abord, il y a une toile qui fait partie de l'exposition, effectivement, qui s'appelle « Les canons et le dôme des Invalides ». C'est une des voûtes de la cour des Invalides avec un canon. Et on voit le dôme dans le fond, effectivement.
L'Empire est assez présent dans ces toiles.
Oui, oui. Ben, peut-être aussi un petit clin d'œil vis-à-vis d'un de ses ancêtres qui a fait partie des armées napoléoniennes, qui était suisse. Et c'était peut-être aussi parce que... il y avait une certaine pompe et une certaine exigence de classicisme et de construction dans la période napoléonienne qui lui convenait bien également. Donc c'est vrai qu'il a travaillé le sujet. Il y a eu une grande exposition à Marmottan justement qui tournait autour de cette époque napoléonienne, Waterloo, les grognards, le déluge, ça c'était aussi inspiré de ses souvenirs de guerre probablement, parce que il a commencé à dessiner énormément quand il était au stalag de Trèves, prisonnier. Bon, il a été, si vous voulez, il était dans un camp où ils étaient ils avaient réuni les artistes et on les faisait dessiner ou peindre ou jouer de la musique, etc. Il les avait, bon, c'était curieux, c'était une chance aussi quelque part. Et d'ailleurs, il se transforme
en école buissonnière d'art.
Peut-être. En guerre buissonnière, alors. mais c'est vrai que beaucoup de ses dessins, il les a ensuite repris au fil du temps de manière différente et il les a actualisés au fil des années.
Mais c'est le cas du Christ, parce que si je ne me trompe pas, il a décoré la chapelle du Stalag.
Absolument. Et la chapelle du Stalag, justement, c'est une anecdote. Il en parle d'ailleurs dans l'interview, là, dont vous avez passé un extrait. Il y a eu juste le Christ qui a été retrouvé. D'une façon un peu miraculeuse, c'est-à-dire qu'un jour dans le bureau du général ou d'armée, sur le bureau, il y avait un rouleau qui a été déposé, personne ne sait par qui, mystérieusement, et c'était la partie Christ. Les prisonniers ont disparu parce que ce camp a été, je crois, beaucoup détruit. Et le Christ a survécu. C'est logique.
vous évoquiez le fait que tous ces artistes étaient rassemblés dans un même lieu durant la guerre, prisonniers. La transition vaut ce qu'elle vaut, mais il semble que les autres formes d'art, vous avez évoqué l'architecture, ont joué un grand rôle pour lui. Et notamment dans ses peintures, on retrouve très souvent des instruments de musique.
Oui.
Quel était son rapport
à la musique. Eh bien, sa mère était musicienne professionnelle déjà et elle donnait des cours aussi. Donc, il a baigné dans cette ambiance musicale depuis tout petit. Et ensuite, dans ses amis, déjà aux Beaux-Arts, il y avait Lucien Fontanarosa qui était peintre, mais dont toute la famille, sa femme et ensuite les enfants qu'il a eu plus tard étaient musiciens. D'ailleurs, les enfants sont toujours musiciens. Le groupe Fontanarosa est réputé. Et il les faisait poser pour ses toiles de composition avec le violon ou le piano. Il n'y avait que les mains et il les a fait poser pour ça. Donc, c'est une petite anecdote.
Fontanarosa,
qui l'a retrouvé d'ailleurs à l'Institut, qui était académicien également.
Notre section.
Ce qui prouve.
Non, c'est le peintre.
C'est le peintre Fontanarosa, mais Patrice Fontanarosa est correspondant à l'Institut aussi. Donc, ce qui prouve aussi une fidélité, vous voyez, même dans les gens qui l'ont côtoyé.
Oui, vous me disiez que c'était l'un des traits qui le caractérisait, oui. et notamment à l'égard des galeristes qui l'ont soutenu et diffusé.
Aussi, parce qu'il a évidemment exposé dans pas mal d'endroits, et entre autres la galerie Wittgenstein à Londres, puis à New York. Mais ces galeries de base ont été pendant un certain nombre d'années la galerie de Paris, place François Ier, avec Lucille Manguin, la fille du peintre. Jusqu'à ce qu'elle arrête l'activité de sa galerie, et ensuite la galerie Framont rue des Saints-Pères, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, et c'était vraiment des liens d'amitié entre Grégor Amparsoumian, le propriétaire de la galerie, et Renner. En plus de ça, il pouvait y aller à pied de son atelier et il ne s'en privait pas. Il faisait l'aller-retour entre son atelier et la galerie régulièrement pour aller bavarder avec son ami. Voilà.
C'était un, un homme chaleureux, me disiez-vous, lorsqu'on évoque son humilité, sa réserve, à parler de lui, de sa peinture, on pourrait être amené à penser qu'il était perpétuellement dans la réserve, mais ce n'était pas le cas.
Ah non, pas du tout. Il pouvait être très sec s'il n'avait pas envie qu'on l'approche de trop près. Mais si vous accordez son amitié et son intérêt, il était extrêmement chaleureux, au contraire. Ah oui. Et généreux.
Quelle était l'ambiance dans l'atelier, je veux dire, l'atelier où il exerçait en tant qu'enseignant ?
En tant qu'enseignant, ah, c'était génial. Ça, c'est un grand souvenir de ma vie. Il y avait une ambiance extraordinaire, puisque je vous dis, en plus de ça, à côté, il y avait son ami des pierres. Donc, ils se sont connus, eux aussi, aux Beaux-Arts à l'école. Ils se sont retrouvés ensuite à l'Académie des Beaux-Arts, tous les deux académiciens. Et ils étaient enseignants, tous les deux, aux Arts Déco, au même étage, avec des ateliers mitoyens. Renner enseignant le dessin et la peinture, Despierres l'art mural. C'était un échange perpétuel entre les élèves. On travaillait les deux disciplines, etc. Il y avait une telle complicité entre ces deux personnages que c'était la même chose au niveau des élèves. D'ailleurs. Dans la période où moi j'ai eu la chance de faire partie des élèves, en fin d'année, il y avait la tradition, c'était de faire une sortie d'atelier. J'oublierai jamais cette sortie de fin d'atelier qui était un petit peu le couronnement de nos diplômes. Ça s'est passé à Chantilly, dans le parc de Chantilly. Ils nous ont fait visiter effectivement le château de Chantilly et ses trésors qui sont bien bien connus. Et ensuite, c'était pique
du patrimoine géré par l'Institut de France.
Absolument. Et puis ensuite, c'était pique-nique dans le parc. Et là, ça n'était pas triste. Mais c'était une ambiance très 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 chaleureuse, très fraternelle, très confiante. C'était merveilleux.
On a souvent l'impression, lorsqu'on connaît mal ce milieu, que le désir d'un artiste, c'est de faire école et d'avoir une postérité artistique. Telle que vous nous avez décrit Georges Renner, il semble que ce ne soit pas le cas, qu'il ne le souhaitait pas. C'est bien ça ?
C'est pas qu'il ne souhaitait pas, c'est qu'il ne le cherchait pas, en fait. La postérité artistique qu'il pourrait avoir, c'est pas quelque chose qu'il aura cherché. Ce sera venu naturellement. Disons qu'il n'a jamais imposé, lui, sa manière de voir. Voilà. C'est en cela que je voulais dire qu'il ne... Il ne souhaitait pas. C'était pas qu'il ne... Non, c'est le mot. C'est
il pas ne cherchait vraiment... pas à ce que ses élèves s'approprient ou
tout...
poursuivent son style, ses
surtout,
techniques.
Surtout pas. Non, non. Je pense même que pour lui, c'était pas une bonne chose. Il fallait que chacun trouve ses propres moyens d'expression, son propre langage. Et puisse vraiment s'exprimer.
C'est davantage un éveilleur qu'un chef de file.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, oui.
Face au mouvement.
Un éveilleur
constitué.
Et un conseiller en même temps. C'est-à-dire qu'il répondait aux questions qu'on lui posait, etc. Mais c'était toujours en fonction de la question que vous aviez envie de poser parce que vous en aviez besoin. Et il ne répondait pas avec ses propres techniques. Il connaissait suffisamment ses élèves pour répondre en fonction de leurs besoins.
Il se mettait à leur disposition, à leur service, plus qu'il ne voulait leur imposer ses propres vues.
Tout à fait, oui.
Enfin, dans une époque qui a quand même été des années 30 jusqu'à aujourd'hui, dans de nombreux domaines, mais aussi dans le domaine de l'art, assez doctrinaire, une grande présence des écoles, des manifestes, des contre-manifestes,
oui.
Le goût des ruptures qu'on expliquait. Comment se positionnait-il face à toutes ces expériences ?
Écoutez, moi, je l'ai considéré plutôt comme quelqu'un d'extrêmement tolérant, mais qui n'avait pas du tout envie de s'impliquer dans des mouvements définitifs ou extrêmes. Il était en réserve de... pas en réserve de la République, il était en réserve de cette attitude-là, tout en respectant ceux qui s'y impliquaient.
Il trouvait un intérêt, mais ne souhaitait pas s'y enfermer.
En observateur, en curieux, en observateur, parce qu'il s'est toujours tenu au courant de ce qui se passait, il s'intéressait aux gens, aux événements, mais pas en tant qu'acteur, non.
Finalement, cette distance entretenue avec les différents mouvements qui se sont succédés au cours du XXe siècle, n'est-ce pas pour lui le gage d'une forme d'intemporalité, de capacité à continuer à séduire, à persister, à survivre aux différentes modes.
Oui, à traverser les modes, effectivement. Et c'est en cela que je suis confiante dans cette exposition, parce que ça va permettre justement au public, puisque là, on a l'avantage d'avoir les passants, c'est très ouvert au public de découvrir, s'il ne connaît pas, sa peinture, ou de la redécouvrir pour ceux qui la connaissent.
C'est en tout cas une occasion unique de découvrir Georges Renard, qu'il ne faut pas manquer. Je vais donc, pour conclure, terminer, une fois n'est pas coutume, par des informations pratiques. Je rappelle donc que l'exposition d'hommage à Georges Renard se tiendra du 27 mars au 13 avril prochain de 11h à 18h, Quai Conti à l'Institut de France. C'est ouvert tous les jours dans cette période, donc du 27 mars au 13 avril, sauf le lundi, donc du mardi au dimanche. Et c'est une exposition dont l'entrée est gratuite, si je ne me trompe pas.
Absolument, c'est ouvert à tous les publics et c'est gratuit.
Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin ou qui n'ont pas la possibilité de se rendre à cette exposition, ce qui serait fort regrettable, il est toutefois possible de se procurer un DVD d'entretien avec Georges Renard, celui-là même dont nous avons passé un extrait en cours d'émission, qui est donc publié par l'Encyclopédie de l'art contemporain. Et qu'on peut donc commander sur internet. Les coordonnées figureront dans la lettre d'information de Canal Academy et sur son site internet. Enfin, il existe un site internet dédié à Georges Renard qui est, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, animé par le fils de Georges Renard lui-même et sa famille.
Tout à fait.
Et qui est un site interactif, puisqu'on peut y apporter des informations. Si donc vous possédez des informations sur Georges Renard, des toiles de Georges Renard, il ne faut pas hésiter à en faire part.
Ou si vous avez des questions à poser sur Georges Renard, et il est remis à jour en permanence au niveau des informations en plus, et puis ça permet effectivement des échanges.
Donc l'adresse de ce site internet, qu'on trouvera également dans notre lettre d'information, c'est www.georges-renard.com. Merci beaucoup Michel Salmon pour cet exposé. Je suis persuadé qu'il incitera un vaste public à découvrir ou redécouvrir, comme vous l'avez dit, Georges Renard. Pour ma part, qui ai eu la chance de voir certaines des toiles exposées en avant-première, je peux vous dire que ce sera une exposition absolument superbe. Merci beaucoup.
Merci.